présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. Pierre. Production. Mise en scène, Julien Jean-Pierre. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui passent sous cette marque sont la propriété de l'auteur. Ce soir, ne peut pas refuser, elle est si belle. Et puis, il voit son joli corps. Je ne veux pas dire qu'il va passer avec elle, ou même qu'il le désire, mais... amoureusement, il est pris par le charme de Judith. Ça avait été un autre personnage que Cliff, il n'aurait pas eu de ceci ou de cela. Il y aurait eu ce qui se dit. Et puis voilà. Mais là, je ne peux pas. Il va lui chercher à boire. Avec une bouteille de verre, faire service. Tiens. Et s'assoit en face de lui. Assise négligemment. En montrant ses formes, elle lui dit « Viens. Alors, te voilà de retour. Tu vois, nous buvons du champagne au ton retour. Ils boivent et Elle lui dit, alors raconte. Il lui raconte ses aventures, l'enlèvement, la serrure, le chantage, leur départ, les séquestrations, les disparitions de Brigitte, sans oublier le beau médecin. Elle lui dit, je vois, mon chéri. Je vois. C'était de faire attention. Mais tu aurais dû m'en parler. Si t'avais réalisé quelque chose. Et puis si t'arrives pas que ce soit, tu me le dis. Il lui dit, je te le promets. Et pour Brigitte, elle lui dit, laisse-la tomber. Elle n'est pas de notre monde. Il lui dit, je l'aime. Et lui dit, tu l'aimes. Tu dois vraiment l'aimer pour me dire que tu l'aimes. Il lui demande, et tremblant, elle lui dit, « Ne fais pas de soucis, j'ai dit que tu étais malade, très malade, une pneumonie, tout le monde te pleure. Alors, moi, je vais te soigner, tu verras mon petit, je vais te soigner. » Oui. Ils passent la nuit ensemble. Mais avant, ils ont bu une bouteille de champagne. Puis, câlin après câlin, ça lui a fait du bien. Et avant qu'ils aillent se coucher, il lui a fait prendre un bain. Nous allons nous retirer le savon pour cuivre. Et un garçon sérieux et que des petits câlins lui suffisent. Prenant leur petit déjeuner, après une nuit douce et délicieuse, elle lui dit, écoute, tu n'es pas en état de reprendre ton travail. Tu vas rester chez moi, prendre un peu de force. Tu es d'accord? Il lui dit, oui, surtout que dans mon appartement, je ne vais pas me sentir à l'aise. J'ai pris l'habitude de vivre avec quelqu'un. Là, seul comme ça, et puis j'ai vécu en pleine nature, je me retrouvais seul entre quatre murs. Chez toi, c'est pas la même chose. Il y a ta présence. Elle lui dit, tu es un chou, et puis je te ferai à manger comme il faut. Il lui dit, autre chose, j'espère. Elle lui dit, nous verrons si tu es sage. Bon, il faut que je me sauve. Elle se lève, lui aussi. Sort de la cuisine. Dans le couloir, elle prend sa veste, son cartable, et dit, bon, si François et Serge viennent, tu lui dis que c'est moi qui te dit de rester ici. » Cliff lui dit, « Ne fais pas de soucis, ils sont pas jaloux de moi. » Elle embrasse et le quitte. Cliff retourne dans sa chambre, il est en slip. Il fait son lit en vitesse. Et va dans la salle de bain. Après avoir pris sa douche, il reste en peignoir parce que ses vêtements ne sont pas propres et puis il va faire la vaisselle à la cuisine. Il lave les bols et range la cuisine. Aujourd'hui, il va se reposer chez Judith. Il ne sortira pas. Il grignote. Il a besoin d'une vie calme. Et puis, il a très faim. Dernièrement, il n'a presque rien mangé. Il a toujours faim. Le lendemain matin, Judith lui demande sa taille pour lui acheter ses vêtements. Elle lui dit, c'était que moi, je te garderais bien comme ça. Tu es si mignon, on dirait un gosse. Mais il faut bien que tu sortes. Comme Cliff ne connaît pas ses tailles, alors c'est elle qui est obligée de prendre ses mesures avec un maître. Il prend les musottes partout, ce qui les fait rire. Il lui crie, ah, non, pas entre les jambes. Elle lui dit, ne sois pas stupide, je te connais aussi bien que si je t'avais fait. Et le soir, après son travail, elle lui amène des vêtements, sous-vêtements. Il lui demande, « Pourquoi est-ce que tu as pris des slips roses ?» Elle lui dit, « Parce que c'est la mode et c'est rigolo. » Et puis je savais que tu aurais honte. Alors comme ça, tu te déshabilleras pas devant les filles. Tu es jalouse ? Oui. Ah, ça, son petit nez mignon, elle lui dit, ne fais pas cette tête, c'est du dernier cri. Les autres étaient pires, genre, suivez la flèche avec des corps ou je sais quelle stupidité comme des piqûres. Je suis pour rien, moi, si on cherche à ridiculiser les hommes. Elle lui a acheté de belles chemises de soie blanche, un assortiment de cravates en soie, bien entendu, et trois costumes gris, crème, marron clair, des chaussures basses, mocassins. Alors, ça te plaît ? Oui, merci. Il l'embrasse sur la joue. Je sais comment te remercier, elle lui dit, en restant sage, parce que j'en ai assez de tes escapades. Maintenant que Cliff est habillé, il va pouvoir sortir. Et lorsque Judy n'est pas là, il veut chercher Brigitte. Décide, c'est d'aller voir dans son quartier où elle habitait. Un après-midi, il y va en taxi pour aller plus vite. La rue est toujours aussi lugubre. Les gens bizarres, ça sent mauvais, ça dégoûte Cliff, surtout qui n'a plus l'habitude de la ville, de ses odeurs, bruits, décors et foules que l'on croise. Il était en plein champ, vert ou blond. Voilà la maison de l'oncle. Vois qu'elle est encore plus délabrée. Il y a des vitres cassées. Elle semble abandonnée. La porte de la maison est ouverte à tous les vents. Ils sont peut-être partis. Oui, ils sont peut-être partis. Il entre dans la maison. Ça sent mauvais, l'humidité, la pisse, une odeur de pourriture comme de la chair en putréfaction. C'est infect. Oui, ça semble abandonné. Des saletés à terre, papiers, objets de toutes sortes. Arrivé au premier, la porte de la pièce est ouverte. Là aussi, c'est abandonné. Il y a bien des meubles, des sols cassés, pleins de taches, de détritus à terre, le lit défait. Sur les murs semble écrit en rouge des signes bizarres. Il n'y a rien de vivant. Des bocaux cassés, d'où a dégouliné de ces bocaux quelque chose de flasque et de rouge. Il y a même dans un bocau un serpent mort. Cliff se dit, ils sont partis et quitte la maison. Thank you. jour de repos, Judith, un jour, lui dit « Je fais là, c'est que tu reprennes le travail. » « Je veux bien, mais... et la direction ?» Elle lui dit « Te fais pas de soucis, je m'en suis occupée. Tu viendras travailler demain matin avec moi. » Et le lendemain matin, Cliff retourne travailler avec Judith. Lorsqu'on le voit entrer avec Judith, la lapin est très heureuse. Elle court à Cliff dans le hall et lui dit « Je suis heureuse que tu sois de retour !» Et elle l'embrasse. Les hôtesses viennent et en font autant. Et Cliff reprend son travail. L'après-midi, Boris Flamblanc fait venir Judith à son bureau. Il lui dit « Si je n'avais pas besoin de ce blanc bec de recontois, je le mettrais à la porte. Il passe son temps à faire des fugues. Et lorsqu'il travaille, c'est le chéri de ces dames. Il n'apporte pas le courrier. » Mais des flèches d'amour à ces dames. Ce n'est même pas le facteur Arquebuse, mais Chérubin. Et nous vivons en plein marivaudage. Ça ne peut plus aller, ça. Elle lui dit, c'est pas bien méchant. Et puis, ça ne le gêne pas pour le travail. Le travail se fait dans la bonne humeur et Cliff les détend et leur fait oublier le stress et l'heure. Ils ne regardent plus l'heure pour s'en aller et non Dieu et ne pensent que pour Cliff. C'est bien. Et comme elles sont moins stressées, elles ne vont plus à la salle de détente. Vous voyez, Cliff leur fait rester à leur poste et lui dit, si vous voyez ces choses... De cette façon, quant à moi, il me donne un travail fou. Sa mère me demande sans arrêt de ses nouvelles toutes les semaines et je suis obligé de lui répondre. Elle lui dit, sa mère est une femme délicieuse. Maurice Tremblant écrit à Mélusine pour lui dire de ne plus se faire du souci. Son petit chérubin est de retour, sain et sauf. Il n'a fait qu'une petite fugue sans importance, amoureuse, avec une jolie petite fille. Mais maintenant, tout est rentré dans l'ordre. Et il a repris son travail. Mélusine qui reçoit la lettre est soulagée. Son Cliff est sain et sauf, et en plus amoureux. Tout va bien. Ça va lui faire oublier sa redoutable histoire. Judith voit l'homme en noir. Elle et lui sont dans son bureau, dans la maison. L'homme en noir lui dit
« Il ne faut plus le perdre. Ils n'ont pas de chance avec ses prétendants. À part Gilbert, les autres, ils ne nous créent que des ennuis, des soucis. Vivement, que l'on sache qui est l'élu. Votre frère s'est mis de la partie avec un petit Didier, je crois. Il fait partie de votre famille. »
Elle lui dit, « Mon frère est fou et jaloux. »
Oui, mais il a un prétendant. Et ça en fait un de plus.
Voir le sang des dieux.
Bon, parlons d'autre chose. Pour l'avenir, il faut se dire, ce qui va rendre les pays puissants, ce ne sont pas les richesses naturelles et même l'or, mais les cerveaux. Plus un pays a des chercheurs, plus il sera puissant. C'est la connaissance qui sera la richesse. Toute nouvelle découverte enrichira le pays. C'est pour cela que nous devons avoir le plus de chercheurs et que chaque recherche, chaque trouvaille doit être brevetée de suite. La vraie guerre, c'est la guerre des brevets et non cette stupidité que nous faisons en Afrique. La France doit être et rester la première puissance. Et pour cela, il faut le plus de chercheurs possible. Il faut, c'est chercher des enfants, des jeunes gens, pour les éduquer, les instruire, pour qu'ils soient des chercheurs dans nos laboratoires. Il faut faire les écoles, pour prendre les meilleurs, et les envoyer dans nos écoles. Avec nous leur irons voir aussi les parents. Prendre les enfants dans les rues, qui traînent. Leur faire passer des tests. Nous ne prenons pas des personnes, mais des cerveaux. Un cerveau, c'est une richesse. Plus on en a, plus on est riche. Comme avant, être riche, c'est qu'il fallait, c'est avoir le plus d'or possible. Vous allez donner des ordres pour intensifier le ramassage du cerveau. Jeune, et les sélectionner. Elle lui dit, bien monsieur, voir l'élu et les autres. Pendant ce temps, Brigitte est dans une pièce sombre, sale, avec des meubles disparates, en mauvais état, sale. Table, buffet, chaise, ça sent mauvais. Et debout devant son oncle, qui est toujours le même, habillé en vieille soutane noire tachée. Brigitte dit à son oncle, pourquoi est-ce que j'ai pas le droit d'avoir des amis? Il lui dit, tu en as plein, je suis là.
Non, je veux des gens de mon âge, des gens qui vivent normalement. J'en ai assez de tout ça. J'en ai assez de vivre dans un décor comme ça, un endroit sombre et sale. Je veux vivre en pleine lumière, comme Cliff. Cliff, c'est le soleil, c'est la vie.
Ton oncle lui dit, c'est impossible. Tu es une déesse de la nuit. Tu es à moi. Nous sommes des ténèbres.
Elle lui dit, c'est ridicule, vous êtes fou. Et elle quitte la pièce.
Pour aller dans une autre pièce.
Elle est tout aussi lugubre et sale. C'est sa chambre. Elle s'assoit sur son lit. Réfléchit et se pose des questions à sa façon d'être prêtre, son oncle. Un prêtre dit qu'il est des ténèbres.
Est-ce normal? Un prêtre aime la vie, la lumière, alors? Et les gens qui l'entourent, ils sont bizarres. Ils lui disent toujours, en la voyant, on t'aime, tu sais. On t'aime bien, tu sais.
Ils habitent rue Bouteille, une vieille rue lugubre, les bas des pentes de la Croix-Rousse. L'immeuble est un vieil immeuble délabré. La vie à Lyon est très difficile.
Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. Pierre. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.